fils, un portrait de femme. Chapitre 32. Ce n'était pourtant pas à lui qu'elle pensait devant la fenêtre où nous l'avons laissé tout à l'heure, ni à aucun des sujets que je viens d'effleurer. Ce n'est pas vers le passé qu'elle se tournait, c'était vers l'heure actuelle, immédiate. Elle avait tout lieu de s'attendre à une scène, et elle redoutait fort les scènes. Elle ne se demandait pas ce qu'elle allait dire à celui qu'elle attendait, car cette question avait déjà sa réponse toute prête. L'intéressant, c'était ce qu'il allait lui dire, lui. Rien d'agréable, assurément. Elle avait tout lieu de le craindre, et c'est cette conviction qui barrait son front d'un nuage. Pour le reste, tout était clarté en elle. Sortie de ses vêtements de deuil, elle brillait d'un éclat qui n'avait rien de négligeable. Elle se sentait seulement plus âgée, plus vieille de beaucoup, et il lui semblait en prendre un surcroît de valeur, comme une pièce curieuse d'une collection d'antiquaires. Ses appréhensions ne se prolongèrent pas indéfiniment, car elle vit bientôt un domestique qui lui présenta une carte. « Faites entrer ce monsieur, dit-elle, sans cesser de regarder par la fenêtre. » C'est seulement après avoir entendu la porte se refermer sur le nouveau venu qu'elle se retourna. Caspar Goodwood se tenait devant elle, et elle lui asséna de la tête aux pieds ce coup d'œil lucide et froid qui arrêtait plus qu'il n'accueillait le visiteur. Nous saurons bientôt si, chez le jeune homme, le sentiment de maturité avait marché de pair avec celui d'Isabelle. Il me suffira pour l'instant de dire que le regard critique de la jeune fille ne pouvait accuser le temps d'avoir eu prise sur lui. Droit, ferme et robuste, il n'y avait rien dans son extérieur qui trahît positivement la jeunesse ou l'âge mûr. Pas plus qu'on y voyait d'innocence ou de faiblesse, on y décelait de philosophie pratique. Sa mâchoire gardait toujours la même carrure volontaire, mais une crise, comme celle qu'il affrontait, n'était pas, il faut le reconnaître, sans caractère de gravité. Il avait la mine d'un homme qui vient de marcher vite, et garda quelque temps le silence comme s'il eût été hors d'haleine. Ce détail donna le temps à Isabelle de faire cette réflexion. Pauvre garçon, de quelles grandes choses on le sent capable, et quel dommage de lui voir si stupidement gaspiller une belle force, quel dommage aussi de ne pouvoir contenter tout le monde. Elle eut même le temps de faire plus, et déclara au bout d'une minute, « Je ne puis vous dire combien j'espérais que vous ne viendriez pas. »« Je n'en doute pas. » Et il chercha des yeux un siège. Il ne lui suffisait pas d'être venu, il voulait s'installer. « Vous devez être bien fatigué, dit Isabelle en s'asseyant, et en admirant la générosité qui fournissait une entrée en matière à son interlocuteur. « Non, pas le moins du monde. M'avez-vous jamais vu fatigué ?»« Jamais, et je le déplore. Quand êtes-vous arrivé ?»« Hier soir, très tard, par une espèce de train escargot qu'on appelle express. Ces trains italiens ont à peu près l'allure de nos enterrements. »« C'était assez à propos, cela vous a donné l'impression de venir m'enterrer. » Elle eut un sourire forcé, comme pour considérer la situation avec désinvolture. Elle avait bien retourné les choses dans sa tête, en s'affirmant qu'elle ne manquait à aucune promesse et ne brisait aucun contrat, mais malgré tout, elle avait peur du jeune homme. Elle rougissait de cette peur et se sentait profondément reconnaissante de n'avoir pas d'autre motif de honte. Il la regardait avec cette insistance inflexible, qui était en soi un tel manque de tact, surtout quand le feu sombre et terne de son regard pesait sur elle comme un poids matériel. « Non, je n'ai pas eu cette impression. Je ne pourrais pas vous tenir pour morte, ce que je regrette bien, » déclara-t-il avec candeur. « Je vous remercie profondément. J'aimerais mieux vous savoir morte que mariée à un autre. » « Cela prouve votre égoïsme, » riposta-t-elle avec l'ardeur des convictions sincères. « Si vous n'êtes pas heureux, les autres gardent le droit de l'être. » « J'admets que ce soit de l'égoïsme, et ne vois aucun inconvénient à ce que vous le disiez. Peu m'importe tous vos reproches, je ne les sens pas. Les plus froides cruautés que vous pourriez envisager ne seront pour moi que des piqûres d'épingle. Après ce que vous venez de faire, je ne ressentirai plus rien du moins que cela. Mais cela, je le sentirai toute ma vie. » Mais Mr. Goodwood détachait ses phrases avec une froide résolution et un lent et dur accent américain, qui ne tempérait d'aucune atmosphère colorée la crudité de ses affirmations. Ce ton irrita Isabelle, plus qu'il ne la toucha, et cette irritation fut peut-être heureuse, en ce qu'elle lui fournit une raison de plus de se maîtriser. C'est pour répondre à cette nécessité qu'elle changea de sujet. « Quand avez-vous quitté New York ?» Il releva la tête comme pour faire un calcul. « Il y a 17 jours. Il a fallu que vous alliez vite malgré la lenteur des trains. Je suis venue aussi vite que je l'ai pu. Je serais arrivé 5 jours plus tôt si cela m'avait été possible. »« Cela n'aurait rien changé, Mr. Goodwood, » fit-elle avec un sourire froid. Pas pour vous, peut-être, mais pour moi. Je ne vois pas ce que vous gagnez. C'est à moi d'en juger. Évidemment. En ce qui me concerne, il me paraît que vous ne faites que vous torturer. Et pour rompre à nouveau les chiens, elle lui demanda s'il avait vu Henriette Stackpole. Il prit la mine d'un homme qui n'est pas venu de Boston à Florence pour parler d'Henriette Stackpole, mais n'en répondit pas moins nettement que cette jeune fille était près de lui au moment de son départ. « Elle est venue vous voir ?» demanda Isabelle. « Oui, elle se trouvait à Boston et m'a vue à mon bureau. C'était le jour où j'ai reçu votre lettre. »« Vous lui avez tout dit ?» demanda Isabelle avec une certaine inquiétude. « Oh non !» répondit Caspar Goodwood. « C'était inutile. Elle l'apprendra bien assez vite. Elle apprend tout. »« Je lui écrirai. » Et elle me répondra pour me gronder, déclara Isabelle avec un nouveau sourire forcé. Caspar gardait son attitude de gravité sévère. « Je crois qu'elle va venir en personne, dit-il. Exprès pour me gronder ? Je ne sais pas. Elle semblait trouver qu'elle n'avait pas vu l'Europe à fond. Je suis heureuse de ce que vous me dites. Je vais me préparer à la recevoir. » Mr. Goodwood fixa un moment les yeux sur le sol, puis les relevant. « Connaît-elle Monsieur Osmond ? Demanda-t-il. « Un peu. » Et elle ne l'aime pas. Vous comprenez que je ne me marie pas pour plaire à Henriette, ajouta-t-elle. Mieux aurait valu pour le pauvre Caspar qu'elle songeât un peu plus à son amie, mais il s'abstint de le faire remarquer et se contenta de demander quand devait avoir lieu le mariage. Ce à quoi elle répondit qu'elle ne le savait pas encore. Tout ce que je puis vous dire, c'est que ce sera sous peu. Je ne l'ai dit qu'à vous et à une autre personne, une vieille amie de Monsieur Osmond. Est-ce donc un mariage qui ne doive pas beaucoup plaire à vos amis ? Je n'en ai pas la moindre idée. Comme je vous l'ai dit, je ne me marie pas pour mes amis. » Il poursuivit son enquête, sans exclamation ni commentaire, en se contentant, sans la moindre discrétion, de poser des questions. « Qui est-ce donc ? Qu'est-ce donc que ce monsieur Gilbert Osmond ? Qui est-il ? Qu'est-il ? Personne, et rien qu'un homme très bon et très honorable. Il n'est pas dans les affaires. Il n'est pas riche. Il n'y a rien de particulier pour se faire connaître. » Les questions de Caspar Goodwood déplaisaient fort à Isabelle, mais elle se sentait tenue de lui répondre dans la mesure du possible. La satisfaction qu'en tirait le pauvre Caspar était d'ailleurs assez mince. Il se tenait très droit, les yeux fixés sur elle. D'où sort-il ? À quel milieu appartient-il ? Jamais le lourd accent du jeune homme n'avait autant agacé la jeune fille. « Il ne sort de nulle part. Il a passé la majeure partie de sa vie en Italie. » Vous disiez dans votre lettre qu'il était américain. « N'a-t-il pas de ville natale ?»« Évidemment si, mais il l'a oublié. Il l'a quitté encore tout enfant. »« Et il n'y est jamais retourné. »« Pourquoi y retournerait-il ? » demanda d'un ton agressif Isabelle, dont les joues s'empourprèrent. « Il n'a pas de profession. »« Il aurait pu y retourner par plaisir. »« Est-ce qu'il n'aime pas les États-Unis ? » ?»« Il ne les connaît pas. D'ailleurs, il mène une vie très paisible et très simple. Il se contente de l'Italie. »« De l'Italie et de vous ?» fit Mr. Goodwood avec une morne simplicité et sans la moindre intention apparente d'épigramme. « Qu'a-t-il donc fait ? » ajouta-t-il brusquement. « Pour que je l'épouse ? Rien du tout, répondit Isabelle, en ajoutant, pour céder à la patience, un soupçon de dureté à son accent. « S'il avait accompli de grandes choses, cela vous aiderait-il à me pardonner ? Ne vous occupez plus de moi, Mr. Goodwood. J'épouse un homme parfaitement obscur. N'essayez pas de vous intéresser à lui. Vous n'y parviendrez pas. » Ce qui veut dire que je ne saurais l'apprécier. Quant à vous, vous êtes rien moins que convaincu de son obscurité. Vous le trouvez grand et magnifique, bien que vous soyez seul de cette opinion. » Isabelle rougit. Elle s'étonnait de la subtilité de son interlocuteur et y voyait une preuve de l'acuité que la passion peut prêter à des perceptions qu'elle n'avait jamais trouvées remarquables. « Pourquoi, demanda-t-elle, en revenir toujours à l'opinion des autres ? Je ne vais pas discuter Monsieur Osmond avec vous. » « Naturellement, admit sagement Gaspard. » Et à son air de sombre désarroi, on aurait pu croire qu'il n'y avait plus entre eux aucun sujet de discussion possible. « Vous voyez combien vous avez à gagner, s'écria Isabelle. Quelle médiocre somme de réconfort ou de consolation j'ai à votre service. » « Je n'en attendais pas beaucoup. Je ne comprends pas alors ce qui vous amène. Je suis venue parce que je voulais vous voir encore une fois, comme vous êtes. » J'apprécie votre amabilité, mais si vous aviez attendu un peu, nous étions certains de nous revoir un jour ou l'autre, et une telle rencontre aurait été plus agréable pour chacun de nous que celle-ci. Il fallait attendre que vous fussiez mariés. C'est précisément ce que je ne voulais pas. Vous serez changés à ce moment-là. Pas beaucoup. Nous resterons grands amis, vous verrez. Cela n'en sera que plus dur, gronda Monsieur Goodwood. Ah, quelle intransigeance! Je ne vais pas promettre de vous détester pour vous aider à la résignation. Cela me serait parfaitement égal. » Isabelle se leva avec un mouvement d'impatience contenue et se dirigea vers la fenêtre où elle resta un moment, les yeux sur le jardin. Quand elle se retourna, elle vit Caspar Goodwood toujours immobile à sa place. Elle revint à lui et resta debout, la main au dossier de la chaise qu'elle venait de quitter. « Alors vous êtes seulement venu pour me regarder. N'avez-vous pas pensé que cela pourrait être plus agréable pour vous que pour moi ?»« Je voulais entendre le son de votre voix, » reprit-il. « Vous l'avez entendue, et vous voyez qu'elle n'a rien de très doux. Cela m'a fait plaisir, quand même. » Et là-dessus, il se leva. Elle avait éprouvé gêne et déplaisir, à savoir, ce jour même, qu'il était à Florence et allait, avec son autorisation, venir la voir. Elle se sentait vexée, agacée, mais ne lui fit pas moins savoir par son messager qu'il pourrait se présenter quand il le voudrait. Elle n'avait pas eu de plaisir à cette visite, tant le simple fait de le voir impliquait de difficultés. Cela signifiait pour elle des droits acquis, des reproches, des gronderies, des remontrances, toutes choses auxquelles elle n'entendait pas se plier. Rien de tout cela d'ailleurs n'était venu, malgré les sous-entendus du silence, et maintenant notre jeune amie, par une étrange contradiction, commençait à s'irriter du sang-froid remarquable de son adversaire. Il y avait en lui une muette souffrance qui agaçait Isabelle, une façon virile de fermer la main qui faisait battre son cœur plus vite. Elle sentait qu'elle avait peine à se maîtriser, et songeait que sa colère était celle d'une femme qui se sent dans son tort. Elle n'avait par bonheur pas cette coupe à vider, mais eût aimé malgré tout essuyer ses reproches. Elle avait souhaité en finir vite, avec une entrevue qui était sans raison et sans objet, et maintenant que le jeune homme faisait mine de se retirer, elle éprouvait une terreur soudaine à l'idée de le voir partir, sans prononcer une parole qui lui donna prétexte à se mieux défendre que dans la lettre qu'elle lui avait écrite un mois plus tôt pour lui annoncer ses fiançailles, en quelques mots brefs et bien choisis. Et pourtant, pourquoi ce besoin de se défendre si elle n'était pas dans son tort? C'était de la part d'Isabelle un excès de générosité, de désirer que M. Goodwood se mît en colère. Et s'il ne s'était pas si fermement tenu, il aurait pu s'irriter du ton sur lequel elle s'écria soudain. « Je ne vous ai pas trompé, j'étais parfaitement libre !»« Oui, je le sais, » admit le jeune homme. « Je vous avais bien prévenu que j'agirais à ma guise. »« Vous m'aviez prévenu que vous ne vous marieriez probablement jamais, » et vous l'aviez dit de façon à me le faire presque croire. » Elle réfléchit un instant. « Nul plus que moi ne peut s'étonner de mes intentions présentes. « Vous m'avez dit que si j'apprenais votre prochain mariage, je n'en devais rien croire, » poursuivit Caspar. « En l'apprenant il y a 20 jours de vous-même, je me suis souvenu de vos paroles. J'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque malentendu, et c'est en partie pour cela que je suis venu. Si vous voulez que je vous le redise de vive voix, je ne vous ferai pas attendre. Il n'y a pas eu le moindre malentendu. » Je m'en suis rendu compte dès que je suis entrée dans la pièce. « Quel bien cela vous ferait-il que je ne me marie pas ?» demanda-t-elle avec une certaine âpreté. « Cela me paraîtrait préférable. Vous êtes fort égoïste, comme je vous l'ai déjà dit. Je le sais, je suis égoïste et dur comme le fer. Le fer s'amollit parfois. Si vous êtes raisonnable, je pourrais vous revoir. Ne me trouvez-vous pas raisonnable maintenant ?»« Je ne sais que vous dire, » répondit-elle avec une soudaine humilité. « Je ne vais pas vous ennuyer bien longtemps, » reprit le jeune homme. Il fit un pas vers la porte et s'arrêta. Une autre raison qui m'a poussée à venir était le désir de savoir l'explication que vous alliez me donner de votre changement d'idée. Aussi vite qu'elle était venue, l'humilité d'Isabelle s'évapora. « L'explication ! Vous croyez donc que j'ai quelque chose à vous expliquer ?» Il lui décocha un de ses longs regards silencieux. « Vous aviez été très affirmative. Je croyais à vos paroles. Moi aussi. » « Imaginez-vous que je saurais expliquer mes raisons même si je le voulais ?»« Non, sans doute. En tout cas, conclut-il, j'ai fait ce que je voulais, je vous ai vu. »« Vous faites bien peu de cas d'un terrible voyage, » balbutia Isabelle, non sans se rendre compte de la pauvreté d'une telle réponse. « Si vous craignez que je sois anéantie pour si peu de choses, vous pouvez vous tranquilliser. » Sur quoi il se détourna, pour de bon cette fois, et aucune parole d'adieu, aucune poignée de main ne s'échangèrent entre eux. À la porte, il s'arrêta la main sur le bouton. « Je quitterai Florence demain, » annonça-t-il d'une voix calme. « J'en suis ravie, » déclara-t-elle avec violence. Mais 5 minutes après qu'il se fut éloigné, elle fondit en larmes.